Luc 24, verset 13. Nous sommes maintenant après la mort et la résurrection de Jésus. Il est apparu à des disciples pendant plusieurs jours. Et ce texte nous dit ceci, Luc 24, verset 13. Ce même jour, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» L'un d'eux, un nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ?»« Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. » Et comme les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort, et ils l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau, n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau, ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ? Puis en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut voulu aller plus loin, mais ils le retinrent avec insistance en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et, après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils sortirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les onze et les autres qui étaient rassemblés, et ils lui dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. » Alors les deux disciples racontèrent ce qui leur était arrivé et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompaient le pain. Amen. Rencontrer et reconnaître Jésus, on aurait pu dire, ça change la vie. Rencontrer et puis reconnaître Jésus, ça change la vie. C'est l'expérience de ces deux disciples, dont un s'appelle Cléopas. Ce n'est pas Cléopâtre, mais c'est Cléopas. Et puis l'autre disciple, alors on ne connaît pas son nom. Alors souvent on s'est dit, tiens, ce sont deux disciples, hommes, masculins. Mais certains se sont dit, mais peut-être que ce serait un couple, un homme et puis son épouse qui voyage. Alors, peu importe ce matin pour nous, mais en tout cas, il est bien question ici de deux disciples. Et comme dans les autres récits que nous avons vus précédemment, il y a un moment clé, un moment charnière qui va faire basculer, j'allais dire, l'attitude de ces disciples. C'est bien sûr le verset 29 où il dit ceci, « Ils vont retenir Jésus avec insistance en disant, « Reste avec nous, car le soir approche. » Le jour est sur son déclin. Reste avec nous. Reste avec nous. Cette parole pourrait simplement traduire une volonté d'exercer l'hospitalité. On parlait de don tout à l'heure. Vous savez que dans la loi mosaïque, l'hospitalité était quand même quelque chose de précieux. On devait accueillir l'étranger, on devait accueillir le voyageur. Et on pourrait se dire, bah oui, ça fait partie de la tradition juive où on doit inviter finalement cet inconnu qui est là, cet étranger, l'inviter au moins pour la soirée, qu'il ne continue pas son périple en pleine nuit, etc. Mais il y a quelque chose, bien sûr, à mon avis, qui est beaucoup plus qu'une simple tradition juive. Ici, dans ce cadre, elle exprime un besoin profond de mieux connaître. De mieux connaître, eh bien, cet inconnu qui vient de cheminer avec eux. Et pour ces deux disciples, il y a quelque chose qu'ils n'arrivent pas encore à discerner, à détecter, mais cet inconnu, il n'est pas comme les autres, il est différent. Il y a quelque chose de plus. Et cette insistance, reste avec nous, exprime réellement leur soif, leur besoin de connaître un peu mieux. Alors celui que nous connaissons maintenant avec le récit, celui qu'ils vont connaître après, hein, cet inconnu bien sûr qui s'appelle Jésus. Reste avec moi Seigneur. C'est peut-être une prière ce matin que nous pourrions nous aussi adresser, une demande que nous pourrions adresser aussi à ce Seigneur que nous ne connaissons peut-être pas encore pleinement. On discerne des différences, on discerne qu'il n'est pas comme les autres et on a peut-être encore du mal à le cerner. Et je crois que cette prière, en tout cas notre présence ce matin, exprime cette prière. Seigneur, reste avec moi. J'ai besoin de toi. Reste avec moi parce que pour ses disciples, la nuit approchait bien sûr, mais il y a peut-être des situations qui ressemblent à cette nuit que les disciples allaient vivre. Des situations où on a besoin d'être éclairé. On ne sait pas ce que demain sera fait. On a peut-être quelques frayeurs, quelques angoisses. On ne sait pas quoi faire. Peut-être que d'autres événements peuvent nous effrayer, comme la nuit peut parfois effrayer certains. Alors c'est la maladie, c'est l'avenir, peut-être certains problèmes familiaux, etc. Et tout cela nous ramène à cette même prière. Seigneur, reste avec moi, parce qu'il y a des ténèbres qui sont devant moi. J'ai besoin d'être éclairé, j'ai besoin d'être rassuré. Et la bonne nouvelle, c'est que si nous aussi ce matin, nous demandons de la même manière au Seigneur de rester avec nous, eh bien de la même manière, nous allons le rencontrer et puis surtout, on va le connaître ou le reconnaître. Et parce que ça va changer nos vies, et parce qu'il va décider de rester. Et pour nous, c'est le sens de ce récit. Alors, on va le couper en deux. Que se passe-t-il avant cette demande? Et puis, que se passe-t-il après cette demande? Cette demande qui va nous faire basculer notre récit. Seigneur, reste avec nous. Reste avec nous parce que le soir approche. Alors, d'abord, avant cette demande, quelle est la situation de ces deux disciples? Comment on pourrait les dépeindre ce matin? Eh bien, la première partie du récit nous donne quelques indications. D'abord, il s'agit de deux disciples, deux personnes qui ont eu l'occasion déjà d'entendre parler de Jésus, de le suivre, peut-être un bout de chemin pendant ces 3 années avec lui. Ils connaissent quelques-uns de ses enseignements et puis ils ont déjà certainement vécu de belles expériences avec lui, dans leur cœur, dans leur corps peut-être, mais en tout cas, ce sont deux disciples. Et pour eux, bien finalement, ces disciples, pendant ces quelques mois, voire quelques années qu'ils ont suivi Jésus, ont expérimenté quelque chose de bon pour leur propre vie. Mais pour les religieux de l'époque, depuis l'arrestation, la mort de Jésus, bien tous les disciples deviennent suspects. Tous les disciples de Jésus-Christ deviennent suspects et on les recherche à Jérusalem. Imaginez un petit peu ce week-end terrible et on recherche les disciples de Jésus pour les interroger, pour peut-être les menacer, pour en tout cas faire pression sur eux. On les interroge et le climat à Jérusalem pour les disciples n'est pas très très sain. Et c'est entre choses, voilà pourquoi les disciples, ces deux disciples, eh bien, regagnent certainement leur maison à Emmaüs. Être un disciple de Jésus ce matin, eh bien, c'est parfois ne pas toujours être bien compris, bien accepté, déjà dans sa propre famille. Peut-être qu'il y a des frères et sœurs au milieu de nous ce matin qui ont été comme les premiers dans leur famille, et puis il y a eu des réactions, on ne les a pas compris alors. Au mieux, on s'est moqué gentiment d'eux, mais au pire, on a pu peut-être les mépriser, les haïr, voire eh bien, les mettre en dehors de la famille. Ça peut arriver qu'à cause du nom de Jésus, eh bien, nos vies, parfois, soient difficiles. Il y a une pression au travail, dans le quartier, on nous regarde un petit peu bizarre. De temps en temps, il y a quelques réflexions qu'on peut entendre. Et ce matin, eh bien, cela peut aussi nous toucher, nous interpeller, nous, en tant que disciples de Jésus. Alors, j'aimerais nous relire déjà au moins 2 textes pour nous encourager. En principe, il devrait apparaître, c'est 1 Pierre 3:13. Mais c'est Pierre qui en parle, hein, et Pierre sait de quoi aussi il parle. Mais si vous vivez ce matin ce genre de situation, voilà ce qu'il est dit. D'abord, dans 1 Pierre 3:13, il est dit ceci, « Qui vous fera du mal ?» si vous avez pour modèle ce qui est bien. D'ailleurs, même si vous devriez souffrir pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte, ne soyez pas troublés, respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur, soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. Faites-le avec douceur, respect, en gardant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez de mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. En effet, il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. 1 Pierre 4,12 « Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez part aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie, dans l'allégresse, lorsque sa gloire sera dévoilée. Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. » Verset 19, « Que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à lui comme un fidèle, au fidèle Créateur, en faisant ce qui est bien. » Amen. Oui, ces deux disciples, eh bien, étaient bousculés, étaient épiés. Et il y avait un mauvais climat sur Jérusalem. Et c'est ainsi, eh bien, que tout à l'heure, par cette rencontre avec Christ, eh bien, leur vie va être là encore, à ce niveau, transformée. Ensuite, il nous est dit qu'ils se rendent de Jérusalem à Emmaüs. Alors, est-ce qu'ils sont partis le matin de Emmaüs à Jérusalem, qu'ils reviennent? Est-ce qu'ils étaient là au week-end? On ne sait pas trop. Mais en tout cas, eh bien, ils connaissent les derniers événements, les dernières discussions, ce qui s'est passé à Jérusalem. Et pour eux, eh bien, ils cherchent quelque part un refuge, c'est bien compréhensible, sortir de Jérusalem, de cette tension, pour se retrouver certainement chez eux à Emmaüs et prendre un peu de recul, avoir un peu plus de force. Ils sont ainsi ce matin, comme chacun d'entre nous, lorsqu'on a besoin d'avoir un peu de calme, de paix, hein, de tranquillité, besoin de sécurité, besoin d'y voir plus clair. Et ce matin, il y a peut-être des bien-aimés qui ont besoin là aussi d'y voir un peu plus clair, de se retrouver en sécurité quelque part pour faire le point et être aussi bien sûr rassurés par le Seigneur. Il dit ensuite qu'ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Leurs conversations sont uniquement alimentées par les faits marquants du week-end. Et on va dire que c'est normal, c'est l'arrestation, la crucifixion, la mort de Jésus, leur propre maître. Et là, il y a une grande tristesse, bien sûr, qui les envahit. C'est le sentiment dominant, d'ailleurs, que Jésus va remarquer, hein, il va les interpeller, mais vous allez être vraiment triste, et la tristesse. Et là encore, eh bien, ce matin, qui ne connaît pas la tristesse? Peut-être que même cette semaine, ça a été une semaine difficile, triste, et vous êtes venu encore dans ce lieu avec cette tristesse. Et on sait bien que la tristesse, ensuite, lorsqu'elle est envahissante, nous paralyse, nous fait replier sur nous-mêmes. Cette tristesse, elle peut être profonde. Et elle est peut-être marquante, bien sûr, et parfois, vous savez, il ne faut pas grand-chose, hein. Il suffit d'un courrier, il suffit d'un événement, d'une circonstance, et puis pour que la tristesse remonte. Et ici, eh bien, c'est le constat en tout cas de ces deux disciples, ils sont dans cette tristesse. Et puis je pense qu'avec cette tristesse, eh bien, il y a d'autres sentiments aussi qui s'ajoutent. Je pense qu'ils sont déçus, ils sont déçus. Nous espérions qu'il délivrerait Israël, voilà leur objectif. Ils pensaient qu'en suivant ce sauveur, eh bien, ce sauveur allait mettre dehors les Romains et puis qu'enfin ils auraient une grande liberté. Et ils sont déçus. Et quelque part, je vais même peut-être dire ça, quelque part, ils se sentent trahis par Jésus. Ils n'auraient pas accompli ce qu'il leur avait promis, en tout cas pour eux. La déception, là encore. Hein, qui ne connaît pas ces sentiments de déception? Et finalement, bien, on peut tous se décevoir les uns les autres, et on est même capable de se décevoir soi-même. Voilà. Hein, oui, on est capable, hein, de se dire, waouh, j'en suis encore là, et puis on n'ose pas trop se regarder dans une glace, parce qu'on est même capable de se décevoir soi-même. Et puis, il y a aussi un sentiment d'abandon, ils se sentent isolés, Jésus n'est plus là au contact, au quotidien avec eux chaque jour, et ils sont complètement, bien sûr, perdus. Ils s'étaient habitués à sa présence. cette présence qui était réconfortante, cette présence qui était quotidienne, et du jour au lendemain, bien, Jésus n'est plus là, abandonné. Je ne sais pas si un jour vous vous êtes senti alors abandonné ou oublié dans une forêt ou sur un parking d'autoroute et vous avez vu la voiture partir ou le bus, je ne sais pas, mais c'est, à ce moment-là, c'est quand même un sentiment assez particulier. Hein. On se dit, waouh, je suis tout seul et puis ça nous tombe dessus comme cela. Et peut-être que ce matin, quelqu'un a ce sentiment aussi profond d'abandon. Et puis un dernier sentiment qui est contradictoire, en tout cas, qui pourrait amener des sentiments contradictoires, c'est la confusion. Et il est vrai que quelques femmes nous ont dit que. Il est vrai que des hommes sont partis, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors, leur cœur balance. Vous connaissez l'ascenseur émotionnel. Hein, un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut, en bas. On part du rez-de-chaussée, on arrive au 50e, et puis après, on redescend. Je veux dire, et parfois tout ça dans une journée. Parce qu'on ne sait plus où on en est. Et il y a ce sentiment de confusion qui est également dans ses disciples. Alors, ce matin, bien, peut-être que nous aussi, nous vivons ce genre de sentiment, la tristesse, l'abandon, on se sent seul, ou on est confus, etc. Bien, il y a une bonne nouvelle, c'est que c'est à ce moment-là que Jésus va les accompagner, va venir. Et c'est la deuxième partie de notre texte. Quelle est l'attitude de Jésus face à ses deux disciples? Il aurait pu se dire, mais quand même, pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, ils m'ont suivi et ils en sont encore là. À s'attrister, à être déçu, se sentir trahi alors que j'aurais tout annoncé. Non, la Bible nous dit, et l'attitude de Jésus est extraordinaire, d'abord il va s'approcher. Jésus va s'approcher de ses deux disciples. C'est peut-être anodin pour nous, hein, mais c'est quand même une grande vérité spirituelle et universelle ce matin pour nous. C'est toujours Dieu qui fait le premier pas pour nous, avec nous. C'est malgré nous. Dieu est même parfois de faire le premier pas malgré nous. Il dira, je me suis même laissé chercher par celui qui ne veut pas me trouver. C'est extraordinaire quand même. Hein? Dieu fait des premiers pas malgré nous, mais en tout cas, c'est une loi spirituelle. Si on pouvait au moins retenir ça ce matin, c'est que Dieu fait toujours le premier pas. Quel que soit ce qu'on vit dans nos vies, qu'une rencontre, un miracle, une bénédiction, c'est parce que Dieu est toujours à l'initiative. Nous, on reçoit, on accepte, on refuse, etc. Mais Dieu est à l'initiative. C'est toujours Dieu qui fait le premier pas envers l'homme pour lui permettre de le rencontrer. Et ce matin, si nous sommes là, c'est parce que Dieu l'a permis. C'est parce que Dieu l'a voulu, c'est parce que Dieu l'a désiré. Il se laisse trouver, il se laisse trouver. Et c'est le cas ici pour ses deux disciples. Même, bien sûr, s'ils parlent de Jésus déjà au passé, même s'ils, finalement, bien, ils ont abandonné l'idée de le rencontrer à nouveau, parce que pour eux, pratiquement, ben oui, c'est une certitude, il est mort, eh bien, Jésus s'approche quand même de ses deux disciples. Et Jésus s'approche de nous ce matin. Jésus s'approche par le moyen de cette rencontre, par le moyen de l'échange, de la communion fraternelle, par les moyens de la Sainte Cène, par la parole de Dieu. Jésus s'approche de nous parce que, bien, il nous aime, parce qu'il veut ensuite nous accompagner. Et je réfléchissais quand même, hein. Jésus va accompagner ses deux disciples. Accompagner, ça veut dire que d'abord, il va se mettre sur le même chemin, le chemin à eux. Et ensuite, il va marcher à leur pas. Et il va marcher avec eux dans la même direction. Ça veut dire que Jésus va se mettre à leur portée. Jésus va se mettre à leur niveau. Et il va s'identifier à leur situation. Jésus ne vient pas en s'approchant de dire, oh là là, vous allez où là tout de suite? Non, 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 allez, on retourne tout de suite à Jérusalem, vous allez voir, etc., etc. Ou alors de leur faire une leçon tout de suite sur le chemin, au bord du chemin, etc. Non, il va les accompagner, il va cheminer avec eux, il va prendre le temps d'eux, il va aller dans la même direction, etc., etc. Et ce matin, on a tous besoin, nous aussi, d'être accompagnés pour progresser, pour aller plus loin, alors que ce soit dans le domaine de nos vies pratiques, hein, on a tous besoin d'être accompagnés. D'ailleurs, il y a une méthode, hein, pour la conduite, c'est la conduite accompagnée. Je ne sais pas si tu connais ça. Hein, on a fait avec mon épouse la conduite accompagnée pour les 3 enfants, voilà, donc à partir de 16 ans. Et ça fait drôle quand même, hein, de passer du siège volant au siège passager. Et les premières fois, vous accrochez bien votre ceinture, et puis voilà, donc vous dites, bon, on y va. Hein. Mais accompagner un enfant dans son permis, c'est lui donner plus de chances de réussir son permis. Et quand on peut le faire, on le fait, bien entendu. Et ce matin, bien, on a besoin d'être accompagné. Et Jésus veut nous accompagner. Il veut nous se mettre à notre niveau pour s'identifier à chacun d'entre nous. Et on peut trouver ça, je veux dire, extraordinaire. Le Fils de Dieu qui connaît toutes choses s'identifie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est devenu un homme, un simple homme, pour connaître, pour mesurer ce que nous pouvons mesurer. Il accompagne, mais aussi il s'intéresse à nous. Il s'intéresse. Il pose cette question, non pas comme une formule de politesse, hein, pour meubler. Parfois, dans certaines conversations, on a l'impression que la personne qui est en face de nous nous pose une question, c'est pour relancer la mécanique, et puis c'est tout, quoi. C'est une question de convenance. Hein, voilà. Mais ici, ce n'est pas une question de convenance. Quand Jésus demande à ses disciples, de quoi vous parliez-vous en chemin, l'air si triste, c'est parce qu'il s'intéresse vraiment à la vie de ses deux disciples. Leur histoire l'intéresse, leur émotion, leur attitude, leur conversation, tout intéresse Jésus. Il s'intéresse à notre vie, il est touché, il est ému de compassion, il s'intéresse aux moindres détails comme aux grandes lignes. Il n'y a rien qui puisse échapper à notre Seigneur. Jésus n'est pas insensible. Il n'est pas insensible. Non seulement il s'approche, non seulement il accompagne, mais également, bien sûr, il va s'intéresser à ses deux disciples. Et puis pour terminer cette première partie, eh bien, Jésus va rassurer. Non seulement il s'intéresse, mais il rassure. Face à leur désarroi, leur tristesse, leur sentiment d'abandon, leur sentiment d'isolement, eh bien, Jésus va les rassurer. Et pour les rassurer, eh bien, il va leur expliquer, eh bien, la parole de Dieu, il va leur expliquer les Écritures, le concernant, tout ce qui était annoncé. Je crois que ce matin, bien, quelque part, on a tous besoin d'être rassurés dans un domaine ou un autre. Qui peut mieux que Jésus nous rassurer, en tout cas concernant notre vie, notre accompagnement avec lui, notre avenir éternel, mais aussi notre quotidien. Il sait tout, il connaît tout, il peut tout. Qui d'entre nous ce matin a besoin d'être rassuré? Laissons-nous approcher par Jésus, laissons-nous accompagner par Jésus, laissons-nous rencontrer par Jésus. Et puis, laissons-nous prendre en charge notre vie, s'intéresser à nous. S'intéresser à nous. En tout cas, pour nous ce matin, eh bien, il y a cette belle réalité, Jésus nous rassure. Jésus veut nous rassurer. Et là, il y a une belle image qui se dresse, hein. C'est celle de Jésus comme étant le bon berger. Jésus qui marche au pas du troupeau. Jésus qui rassure, Jésus qui s'identifie, il a été fait agneau de Dieu pour nous, Jésus qui rassure son troupeau. Ce matin, bien, nous sommes ses brebis. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. L'attitude de Jésus, ce matin, elle est extraordinaire pour chacun d'entre nous. Et si nous sommes comme ces deux disciples d'Emmaüs, avec des sentiments parfois contradictoires, eh bien, Jésus, de la même manière, veut s'approcher, veut accompagner, il s'intéresse et il nous rassure. Jésus est le bon berger. Alors c'est pour ça qu'à un moment donné, devant l'attitude de Jésus, eh bien, il va y avoir ce cri, cette demande qui dépasse, je rappelle, le cas de l'hospitalité juive. Seigneur, reste avec nous. Ils le diront après, hein. Quand ils nous expliquaient, il y avait déjà des choses qui se passaient dans leur cœur. Et suite à ce qui se passe, il dit, mais reste avec nous, reste avec nous. Le soir approche, le jour est sur son déclin. Et voilà pourquoi ce matin, nous pouvons dire aussi au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Reste avec moi. Reste avec moi. Et là, quand on fait une telle prière, une telle demande, que va-t-il se passer? Eh bien, l'attitude de Jésus nous le rappelle dans ce texte. D'abord, Jésus va entrer pour rester avec eux. Et j'ai mis, c'est aussi simple que cela. Je vous le lis quand même. Hein. C'est aussi simple que cela. Jésus ne refuse jamais une invitation. Jésus ne refuse jamais une invitation, une demande. D'ailleurs, c'est pour ça, hein, qu'on va le qualifier, on va dire de lui, il va manger chez des gens de mauvaise vie. Il loge chez des gens de mauvaise vie parce que Jésus ne refusait jamais une invitation. Et on était offusqués quand Jésus, eh bien, répondait à une invitation d'un pharisien. Ah, là c'était terrible. On était offusqués. Et ça va courir, bien sûr, sur Jésus. Mais ce matin, c'est aussi simple que cela. Lorsqu'on demande de Jésus à Jésus de rester avec nous, bien, il le fait. Il reste avec nous. Il répond à l'invitation, à la demande. Et Jésus est resté, il entra pour rester avec eux. Il entra pour rester avec ses deux disciples. Il va partager le repas avec eux. Alors c'est le repas de famille, hein. On essaye, nous qui vivons en famille, de préserver le repas de famille. C'est pas toujours évident, hein. Je sais pas comment vous faites à la maison, mais parfois c'est pas évident. Alors on peut le faire peut-être le week-end, hein, parce que les enfants font des études, ou alors ils rentrent en horaire décalé, ou alors hein, le mari travaille. C'est pas toujours évident, mais on sait l'importance d'un repas où on peut se poser, où on peut partager. Pas simplement, bien sûr, de la nourriture, hein, mais des idées. On peut, c'est un moment important dans le dialogue de la famille, dans le cadre familial, là aussi. Et ici, bien, c'est un moment, c'est comme une pause. Jésus va partager donc le repas avec ses deux disciples. Et Jésus aime le partage. Jésus aime le partage avec nous. Dans certaines mythologies, il est question alors des dieux, hein, vous avez connu ça en histoire, alors les Grecs, les Romains et puis les autres. Mais beaucoup de mythologies nous expliquent que les dieux finalement ont créé les hommes, c'est pour qu'ils deviennent leurs esclaves, hein, pour que les hommes les servent, etc. Et puis voilà, donc il y a les dieux, il y a les demi-dieux, les hommes, etc. Bon, vous connaissez ces... Mais là on n'est pas dans la mythologie. Vous vous rappelez de quelle manière chaque soir ou chaque jour en tout cas, où Dieu visitait le jardin pour parler à Adam et Ève, pour partager avec eux. C'était un moment de dialogue, de partage. Et Dieu a créé l'homme et la femme, oui, pour qu'il y ait un échange, un partage, et que nous, en retour, nous puissions partager, l'adorer, le bénir. Et ce matin, eh bien, rappelons-nous que Dieu aime la relation, il aime le contact, il aime le partage. Il aime dialoguer, partager avec nous pour que nous puissions, nous aussi, bien, avec lui, partager, dire ce qui est au fond de notre cœur. Apocalypse 3:20, hein, nous rappelle ce passage là aussi où Jésus dit ceci, bien, voici, je me tiens à la porte de ton cœur, de ta maison, de ta vie, et je frappe. Et si quelqu'un, eh bien, entend ma voix et ouvre la porte, alors j'entrerai, je souperai avec lui, et puis lui avec moi. Un temps de partage, un temps de dialogue. Et des fois, vous savez, on a oublié un petit peu le bon repas qu'on a eu, mais on n'a pas oublié le temps de partage, de cœur à cœur, la conversation. Il y a des fois, peut-être même autour d'un sandwich qu'on a partagé en 3 ou en 4 ou en 15. Hein, finalement, ce qui est resté, c'est le temps d'échange, de partage, de cœur à cœur. Mais Jésus offre les deux, la nourriture pour notre corps, pour notre âme, pour notre esprit. Il offre sa présence et ce matin, bien, Jésus aime partager. Et une remarque quand même, il est dit que Jésus va partager le pain. Mais vous savez que à l'époque, c'est quand même le maître de maison qui devait partager le pain. Et là, il y a quand même quelque chose qui est étonnant. Peut-être une demande, en tout cas du chef de famille, il va demander à Jésus de partager le pain. Il finalement l'invité partage le pain. L'invité devient celui qui bénit. L'invité devient celui qui donne, qui communique, qui partage. C'est extraordinaire ça. Quand on invite Jésus dans nos vies, l'invité devient celui qui va bénir, va devenir celui qui va partager, va devenir celui qui va donner, celui qui va offrir. En invitant Jésus, ce matin, on ne fait pas un mauvais calcul, bien au contraire. Nous invitons celui qui va donner, celui qui va partager, celui qui va communiquer, celui qui va offrir, sans aucune restriction. « Je suis le pain venu du ciel hein, », c'est Jean 6, 51. « Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Il vivra éternellement. Quel bouleversement et quel changement désormais dans la vie de ces deux disciples. Hein, lorsque Jésus partage et que leurs yeux s'ouvrent, ils le reconnaissent, c'est bien lui. Il n'est pas mort, il est vivant, il est ressuscité au siècle des siècles. Et leur vie va changer. Et leur vie va changer. Et ce matin, en invitant Jésus à partager, à communiquer ce qu'il a de meilleur pour nous, eh bien nos vies sont changées, nos vies sont transformées. Et nos vies sont bouleversées. On ne peut pas rester de la même manière, ce n'est pas possible, parce qu'il y a quelque chose qui se passe en nous, dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit, même dans notre corps. Alors, l'attitude désormais, et on termine, le changement opéré après cette belle demande, « Seigneur, reste avec nous », Eh bien, d'abord, leurs yeux s'ouvrent. Ils le reconnaissent enfin Jésus. Au début de la rencontre, hein, les deux disciples, eh bien, sont tellement attristés, eh bien, ils ne voient pas. D'ailleurs, très concrètement, hein, quand on est attristé, il y a quelques larmes qui coulent. On a du mal à voir, hein, les choses sont un petit peu déformées, etc. Il faut essuyer les larmes pour mieux voir. Mais là, il y avait une telle tristesse, eh bien, qu'ils étaient complètement omnibulés par cette réalité, et puis leur perception des choses était faussée. Mais là, enfin, ils le reconnaissent. Suite à cette rencontre, leur tristesse, leur déception disparaît. Il y a un véritable changement et ils reconnaissent Jésus. Et en un instant, bien, leur cœur est transformé. Paul pourra prier, et c'est notre prière ce matin, dans Éphésiens 1:18. Il dit ceci, Paul, « Je prie pour qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. » Lorsque nous invitons Jésus à partager avec nous, bien, il y a une espérance extraordinaire qui s'attache à son appel. Et puis, je ne sais pas si j'avais mis Proverbes 3, 5, 6. Je l'ai mis celui-là pour qu'on puisse le lire. Voilà, super. Au moins, on va le lire ensemble. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Reconnais-le dans toutes tes voies. Oui, même dans l'épreuve, eh bien, nous pouvons reconnaître Jésus qui nous accompagne, qui nous aide. Même dans les moments difficiles, nous pouvons le reconnaître comme étant avec nous, comme celui qui va nous conduire et nous accorder ce dont nous avons besoin. Confie-toi en l'Éternel. Oui, ce matin, nous allons dire, Seigneur, eh bien, reste avec moi, j'ai besoin de toi. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais j'ai besoin. Reste avec moi, Seigneur, reste avec moi. Alors, qu'est-ce que vont vivre ces deux disciples? Je ne sais pas s'ils ont eu le temps de prendre le dessert, j'en sais rien. Hein. Peut-être que certains auraient dit, bon, on va attendre le dessert, on va partir après. Mais leur cœur est tellement rempli, ils n'ont plus faim, ils sont dans cette joie, etc. Ils repartent en pleine nuit. Hein. Et il n'y a pas l'éclairage public. Ils repartent en pleine nuit, ils repartent vers Jérusalem, c'est 12 kilomètres quand même. 12 kilomètres. Leurs forces physiques, morales, spirituelles sont complètement renouvelées à un tel point qu'ils vont refaire le chemin là, à l'envers tout de suite. Ils ne vont pas attendre le lendemain matin. Ils repartent directement à Jérusalem. Et j'aimerais juste terminer par deux remarques. Jérusalem, ça veut dire fondement de paix. Et malgré le contexte toujours suspicieux, parce que le contexte à Jérusalem n'a pas changé. Hein. D'ailleurs, lorsque Jésus se rendra vers ses disciples, hein, ses disciples étaient enfermés, ils étaient barricadés par crainte des Juifs. Bon, mais ce n'est pas un problème pour Jésus, hein. Les barricades, etc., de nos cœurs, parfois, ce n'est pas un problème. Jésus veut rentrer aussi de la même manière si on lui laisse cette place. Mais en tout cas, ils n'hésitent pas à informer leurs frères et sœurs de cette bonne nouvelle. Ils ne peuvent pas la garder pour eux. C'est quelque chose qui bouillonne. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, écoutez ça, la bonne nouvelle de Jésus dans nos vies sera toujours plus forte et devra toujours être plus fort que les mauvaises nouvelles de ce monde. Amen. La bonne nouvelle de Jésus aura toujours beaucoup plus de conséquences positives dans notre corps, dans notre âme, que toutes ces mauvaises nouvelles qui voudraient nous écraser. Et si ce matin, eh bien, il y a des mauvaises nouvelles, parce que qui n'en a pas, qui voudrait nous voler notre foi, notre joie, notre espérance, eh bien, rappelons-nous de la bonne nouvelle de Jésus. Ses disciples, eh bien, n'ont pas vu le contexte de Jérusalem changer. C'était toujours aussi suspicieux, aussi dangereux. Ils risquaient peut-être de se faire arrêter par la police du Sanhédrin. Mais ils y ont été quand même. Parce que ce qu'ils vivaient à l'intérieur était beaucoup plus supérieur que toutes les craintes qu'ils avaient eues en partant de Jérusalem. Elle triomphe, cette bonne nouvelle, de la suspicion, de la peur, de la crainte. Amen. Et ce matin, bien, c'est cette bonne nouvelle de Jésus, hein, que le Seigneur veut encore renouveler dans nos cœurs. Et puis, la dernière remarque, Jérusalem, à quelle altitude est Jérusalem? Vous le savez, vous qui avez, ça c'est haut? Oui, 754 mètres, voilà, hein, 750. Et à quelle altitude est Emmaüs? 133 mètres. Alors j'ai fait un petit calcul, hein, ça fait un dénivelé quand même de 621 mètres sur 12 kilomètres. Bon, c'est un dénivelé, je vous l'accorde, j'ai regardé quand même les spécialistes, c'est moyen. Mais ça monte quand même. Mais ça monte quand même. Et il y a encore une belle image pour nous ce matin. Lorsque nous demandons à Jésus de rester avec nous, Il nous aidera toujours à remonter la pente. Il nous aidera toujours à remonter la pente, de passer des 133 mètres aux 750 mètres, hein, sur 12 kilomètres, etc. Il a fallu quand même faire un petit effort. Bon, voilà. Je vous dis maintenant, allez, après le cul, on se fait 12 kilomètres avant de manger, vous allez voir. Hein. Peut-être qu'on mangera avant, avec un petit dénivelé comme ça. Il y en a qui vont peut-être traîner, moi le premier, peut-être. Mais il y a une belle image. Lorsque nous demandons à Jésus de rester avec nous, il nous aidera toujours à remonter la pente, à franchir les obstacles les plus élevés, les montagnes peut-être qui nous semblent les plus inaccessibles, etc., à gravir des difficultés. Il nous aidera toujours. Alors il y a peut-être quelqu'un qui se dit, oh, moi je ne suis pas à 133 mètres, moi, je suis à moins 50 ou moins 200. Ben, ça vous permettra d'expérimenter d'autant plus la grâce de Dieu, hein. Ce n'est pas un problème pour Jésus, hein, qu'il vous prenne à moins 300 ou à moins 500 pour vous monter à plus 1000 ou à plus 8000. Ce n'est pas un souci pour le Seigneur. De la même manière, il veut le faire ce matin. Alors, pourquoi pas ce matin? Pourquoi ne pourrions pas dire aussi au Seigneur, formuler cette belle demande, « Reste avec nous, Seigneur. Reste avec moi. J'ai besoin. Seigneur, tu connais ma vie. Oui, sur certains points, je ressemble à ses disciples. » Mais je veux surtout expérimenter que ses disciples ont expérimenté aussi dans leur vie. Amen. Alors que le Seigneur nous fasse grâce ce matin, et on veut propose très simplement, dans ce moment, bien, que chacun avec nos mots, que ce soit au fond du cœur, que ce soit avec des mots, que ce soit dans notre langue natale, peu importe, puissions dire, Seigneur, eh bien, reste avec moi, j'ai besoin. Et vous verrez, eh bien, connaître, rencontrer, reconnaître Jésus, ça change la vie. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour le secours de l'Éternel qui ne fait jamais défaut. Merci pour ces deux disciples que tu as rencontrés, que tu as accompagnés, tu t'es approché, tu les as rassurés, tu t'es identifié à eux. Et ce matin, Seigneur, eh bien, nous voulons là aussi de la même manière vouloir pouvoir dire, reste avec moi Jésus, parce que j'ai besoin. Il y a comme des ténèbres dans ma vie, il y a comme des brouillards épais, je ne sais pas, je ne connais pas, je n'ai pas toutes les informations, alors j'ai besoin de toi. Seigneur, je prie ce matin pour que nous puissions ressortir de ces moments transformés, renouvelés. Oui, accepter Jésus dans sa vie, ça change notre vie. Alors, fais-nous grâce ce matin, dans le beau nom de Jésus, afin que nous puissions ensemble remonter les pentes. Il y a des pentes, Seigneur, à remonter ce matin pour certains, des difficultés à nouveau à saisir. Il y a peut-être la pente de la honte, la pente de la culpabilité, la pente du péché, la pente de problèmes familiaux, la pente de la maladie. Seigneur, mais même si on a l'impression d'être à moins 500, alors tu vas nous chercher là où nous en sommes. Tu t'approches de nous, tu nous accompagnes, tu marches à notre rythme et tu nous accordes ta grâce. Merci de venir nous chercher, de venir me chercher là où j'en suis, à l'altitude où j'en suis, afin qu'avec toi, je puisse remonter la pente. C'est notre prière ce matin pour chacun d'entre nous, que nous puissions remonter la pente avec la grâce de Dieu. Merci Jésus. Amen.